au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40.
Bon, il y a des gens qui vous disent, bon, il y a qu'à mettre le tirage au sort, tout ira bien. Mais il n'y a aucune raison que des gens qui sont en place aujourd'hui le mettent en pratique. En tout cas, le hasard doit retrouver son rôle, parce que le mérite quand même extraordinaire du hasard, c'est qu'il ne se laisse pas corrompre.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le Royaume-Uni et la France connaissent cette semaine des élections législatives et nous avons accoutumé de célébrer celles-ci comme la manière naturelle, quasi évidente en démocratie, de désigner nos représentants qui auront le pouvoir de voter la loi, notamment financière, et de contrôler les gouvernements. Loin de moi, vous le pensez bien, l'idée malvenue en toute occurrence, et spécialement aujourd'hui, d'en dénigrer le principe précieux. Mais il ne m'en a pas moins paru stimulant de rappeler qu'en régime de liberté, un autre système que le vote a été souvent envisagé et parfois pratiqué pour assurer le choix des citoyens opinant en notre nom dans l'ordre judiciaire au premier chef, mais aussi dans l'ordre politique. Entendez, le tirage au sort, le tirage au sort. Toute une lignée de théoriciens se sont en effet référés au principe énoncé par Aristote à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est considéré comme démocratique, je cite, que les magistratures, comprenez les emplois publics, que les magistratures soient attribuées par le sort et comme oligarchique qu'elles soient électives. Le tirage au sort des dirigeants a été de fait pratiqué largement dans la Grèce antique et aussi dans une moindre mesure à Rome. Il a repris du lustre, selon des modalités et avec des conséquences variées, dans les villes italiennes du Moyen Âge et de la Renaissance notamment, à Florence et à Venise. Il a été théorisé depuis lors par tout un courant philosophique et il paraît bien retrouver ici ou là, de nos jours, quelques prestiges dans la doctrine et même dans la pratique, par exemple dans l'Islande, l'Irlande et le Portugal, d'après la grande crise récente. Olivier Christin, professeur d'histoire moderne à l'université de Neuchâtel en Suisse et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, a publié récemment un livre admiré qui s'intitule « Vox Populi », où il traite de l'histoire du vote avant le suffrage universel, et forcément, il a beaucoup réfléchi sur son rival, à savoir le tirage au sort, en se demandant, à son tour, si celui-ci peut être vraiment démocratique. Telle sera, dans le long terme, notre interrogation ce matin.
Qui fait tanguer tomber les têtes dans le brouillard des boulevards, voyez danser les marionnettes. C'est bizarre, le hasard qui nous fait mourir, nous fait naître, milliardaire ou Mozart, dans la fosse ou dans la fête. C'est bizarre, à Dinard, on broie du noir à la roulette, les regards sont hagards, toute ma vie est sur le 7. C'est bizarre, cette bagarre contre l'inconnu qui nous guette, la banquise, le blizzard, où le numéro s'arrête. C'est bizarre, le désespoir de ces amants, leurs pauvres gestes. Dans cette gare Saint-Lazare, il y a elle qui part, il y a lui qui reste. C'est bizarre, ce hasard qui ne sépare la fenêtre. Un murmure, un mouchoir, et les voilà morts peut-être. C'est bizarre, le hasard qui envoie des hommes à la guerre, des boyards à cigares, leur ont dit qu'il fallait la faire. C'est bizarre, le hasard qui te fait poète ou militaire, général ou fuyard, assassin ou réfractaire. C'est bizarre, le hasard qui m'a conduit à ta clairière, à l'écart des traquenards, des chausses-trappes et des ornières. C'est bizarre, le hasard qui m'a tendu ce tendre piège. Et la lune ce soir éclaire nos pas sur la neige. Et la lune ce soir éclaire nos pas sur la neige.
Olivier Christin, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert, je vous ai proposé une chanson de Henri Tachant, une chanson qu'il a écrite et interprétée en 1979, qui s'appelait « Le hasard ». Je pense que vous n'êtes pas surpris par ce choix. Et vous avez sûrement salué toutes les rimes en art, Saint-Lazare, Blizzard, etc. Ce n'est pas pour ça que j'ai choisi cette chanson. J'ai choisi parce qu'elle me paraît déjà mettre en lumière un certain nombre des thèmes que nous allons avoir à traiter. Le départ pour la guerre, les têtes qui peuvent tomber, la politique au sens le plus large.
Absolument, c'est sans doute plus pour cela que pour les rimes, en effet, c'est les différents visages du sort et du hasard qu'il évoque dans la chanson. Il y a le jeu, il y a le hasard amoureux, il y a les rencontres, il y a la fortune, la naissance, on ne choisit pas le milieu, le monde dans lequel on est, mais il y a aussi effectivement des pratiques spécifiquement liées à vivre ensemble, à qu'est-ce que c'est que la République, qu'est-ce que c'est que l'État. Je crois qu'une des premières rimes, c'est bizarre le hasard qui fait tomber les têtes, qui peut être aussi vu comme, par exemple, le tirage au sort des dirigeants, la sélection des gouvernants ou des députés.
Et les jurys.
Les jurys,
parce que nous sommes dans l'ordre du judiciaire, voilà, et pas seulement du politique.
Qui fait tomber les têtes, ça peut être aussi les membres de jury choisis pour juger des gens accusés d'avoir commis des crimes. Le hasard qui envoie les hommes à la guerre aussi à un moment. On pense évidemment aux services militaires et aux armées de l'époque moderne et de l'époque du 19e siècle, avec le tirage au sort de la milice au 18e, qui contribue d'ailleurs à discréditer un peu le hasard, les loteries dans la France du 18e siècle, qui n'a pas forcément bonne presse en raison de l'injustice qui paraît s'attacher au tirage au sort de la milice.
Et jusqu'à la fin du 19e siècle, vous pouvez tirer un mauvais numéro.
Absolument. Et ceux qui n'avaient pas les moyens de se faire remplacer étaient donc condamnés à cet exercice.
Et d'ailleurs, se faire remplacer, c'est important parce que cela montre que le hasard peut être souvent compensé par la situation sociale et par la richesse des individus.
Absolument. Et donc, la chanson touche vraiment à des points essentiels, sélection, renouvellement, rotation des personnes choisies pour occuper une fonction ou une charge, et puis le lien entre porter les armes et être citoyen. Peut-on être citoyen sans porter les armes? Peut-on être exclu du vote dans les régimes censitaires et pourtant être choisi pour accomplir ses obligations militaires? Je trouve que la chanson raconte assez bien ça autour de la question de tirer au sort ceux qui participent ou non à la vie publique.
Je ne sais pas si Henri Tachant aurait prévu qu'on tirerait autant de choses de son propos, mais je vous en remercie. Je vous en remercie, Olivier Christin, et cela nous conduit tout directement à la problématique qui est la nôtre, celle du tirage au sort en démocratie. Il y a un vrai renouveau, ici ou là, du tirage au sort, ceux qui le disent possible, nécessaire, et puis des pratiques en Islande, en Irlande, en Colombie-Britannique, il faut aller chercher jusqu'à Vancouver.
Oui, absolument. Il y a un renouveau qu'on observe depuis 10 ans, peut-être 20 ans, ça dépend des pays, et qu'on observe aussi dans les sciences humaines et les sciences sociales. Il y a un intérêt nouveau de philosophes, de politistes, d'historiens, de juristes sur le sort, la loterie, le tirage au sort comme outil du renouveau démocratique. Et ces travaux se fondent sur des expériences réelles, celles qui ont été accomplies autour des jurys citoyens, des sondages participatifs, initié par James Fishkin, un universitaire californien célèbre pour ses sondages citoyens, ses jurys citoyens qui veulent renouveler les formes de participation politique, mais des expériences politiques qui sont nées aussi au lendemain de la grande crise financière de 2007-2008, et c'est au fond les expériences de l'Islande ou de l'Irlande.
Expliquez-nous ça.
Alors, des classes politiques discréditées par la crise financière et leur rôle dans la mauvaise gestion de la crise financière en Islande et en Irlande.
L'Islande a été pratiquement au bord de la faillite.
Voilà, deux pays très très fortement touchés où la croissance s'est ralentie, les banques ont été quasiment en situation de faillite ou en situation de faillite, et une crise politique qui a contribué à accélérer une distance des citoyens à l'égard de la classe politique, jugeant que la classe politique n'avait pas pris en compte la gravité de la situation. Donc, méfiance à l'égard des politiques publiques, méfiance aussi à l'égard de la classe politique désignée comme étant solidaire, comme une élite aristocratique, très éloignée des préoccupations des gens au quotidien, poursuivant ses propres intérêts. Et puis, l'inquiétude aussi devant un éloignement, un désenchantement démocratique des citoyens aujourd'hui, qu'on voit dans beaucoup de pays d'Europe avec la montée soit des populismes ou du populisme, et la montée de l'abstention aussi.
Concrètement, en Islande, on avait tiré 1000 personnes au sort qui ont formé une assemblée nationale dont l'objectif était de dégager les différents points d'une constitution à réviser. Ensuite, d'autres se sont chargés de la réviser. Et d'ailleurs, finalement, le référendum a été négatif. Même chose en Irlande. Une commission constitutionnelle était composée de 33 responsables politiques et de 66 citoyens. Ça faisait 99 citoyens tirés au sort et représentatifs. C'est déjà une question que nous aurons à traiter. Oui. Représentatifs en termes d'âge ou de genre de l'électorat irlandais. C'est l'idée de l'échantillon était absente, évidemment, de l'esprit, ou peut-être pas, de l'esprit des anciens.
Absent de l'esprit des anciens, il n'y avait pas les outils intellectuels avant, on va dire, d'abord la théorie des probabilités, 17e, 18e siècle, et puis les questions sur la représentation, l'échantillon représentatif, qui sont des outils 19e, 20e, avec les statistiques. Mais ça, on pourra y revenir.
Non sans rester un instant à Vancouver, tout de même, en Colombie-Britannique, puisqu'en 2004, des citoyens, 160, ont été désignés par tirage au sort pour analyser le système électoral et éventuellement en proposer un. C'est rarement décisionnaire.
L'idée, dans les trois exemples que vous avez évoqués, Islande, Irlande, Vancouver, c'est au fond de remettre la politique dans les mains des citoyens. Dans des citoyens qui nous ressemblent ou qui seraient des citoyens ordinaires chargés de se prononcer sur des questions extraordinaires. La Constitution, revoir les règles électorales, revoir l'équilibre des pouvoirs, en estimant qu'au fond, le rêve du régime démocratique, d'un régime pour le peuple, par le peuple, ne sera jamais aussi bien réalisé et accompli que dans ces assemblées de citoyens ordinaires, tirés au sort et qui nous ressemblent, et qui pour cela viendront s'emparer de questions qui leur échappe dans le régime représentatif. Donc c'est un moment de défiance à l'égard du régime représentatif qui s'est imposé avec les élections et avec les assemblées modernes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et les révolutions américaines et révolutions françaises. Donc c'est aussi un signe de défiance, remettre la démocratie dans les mains des citoyens à travers des assemblées tirées au sort. Assemblée où quand même les citoyens sont accompagnés par des experts ou par des hommes politiques ou par des juristes et des experts qui viennent leur donner la faisabilité et la légalité de leurs décisions. Donc ça, c'est d'abord remettre le pouvoir dans les mains des citoyens. Et deuxième chose, c'est réhabiliter la délibération. C'est-à-dire remettre de la participation citoyenne et remettre de la délibération, c'est-à-dire du travail en commun, l'élaboration de la loi, l'élaboration de la constitution, l'élaboration législative dans la discussion qui permet de rapprocher les positions. Donc c'est aussi des pratiques de fabrique du consensus, de résolution des conflits, de dégripper la machine démocratique qui par moments paraît bloquée.
Avec déjà des interrogations qui sont celles des psychologues sur les effets de la délibération en petits groupes, souvent d'ailleurs de façon close. Est-ce que cela aboutit à ce que les membres de ces petites assemblées se convainquent ou au contraire, est-ce que les polarisations s'affirment?
Alors, Là, c'est vraiment un travail de psychologie sociale, de théorie de la décision, d'expérimentation sur les formes du choix rationnel. On pourrait donner des exemples d'anciens régimes, par exemple, où on ne séparait pas, comme nous, aujourd'hui, assez fortement la partie décision et la partie délibération. Aujourd'hui, nous votons, mais nous votons de manière atomisée, dans l'isoloir, avec une urne, un bulletin caché, et nous votons sous un voile d'ignorance. Je ne sais pas ce que vote la personne qui était avant moi dans l'isoloir.
L'isoloir ne date d'ailleurs en France que des deux ou trois années qui précèdent la Première Guerre mondiale.
Absolument. Une invention très tardive, comme les urnes, etc. À part le cas particulier de l'élection des souverains pontifes où les cardinaux votent dans l'ignorance réciproque les uns des autres. Tout le monde sait quelles sont les chances réciproques des candidats, mais les électeurs ne savent pas ce que votent les autres électeurs, en théorie. Il y a des lieux, par exemple, des assemblées d'anciens régimes ou des abbayes ou des universités où les gens expliquent leur vote. C'est-à-dire on débat, puis on vote, puis les gens expliquent leur vote. Alors on distribue la parole dans un ordre bien précis au moment du débat, en général le plus prestigieux en premier, les moins prestigieux en dernier, puis au moment du vote, le contraire, on fait voter les moins prestigieux en premier, puis les plus prestigieux en dernier, de manière à peser sur la décision. Que les plus titrés, les plus âgés pèsent sur la délibération qui n'est pas totalement égale. Et au fond, le travail de la délibération vient former une opinion commune un peu conforme à la position des dominants de l'Assemblée. Ce sont des exemples d'anciens régimes, 17e, 18e ou du Moyen-Âge, mais on peut peut-être en tirer des conclusions sur les pratiques délibératives aujourd'hui.
Dans les assemblées ou dans les groupes qui sont
qui ne sont pas forcément égalitaires.
Tirage au sort.
Dans des assemblées tirées au sort, on ne peut pas être certain de ce que la délibération produira d'égalité des opinions. Certains peuvent l'emporter, certains ont une éloquence très forte ou ne sont pas timides ou parlent très fort.
On est sensible aussi au fait que tous ces débats et même ces pratiques depuis l'époque du Moyen-Âge se réfèrent constamment aux précédents de l'Antiquité, en particulier de la Grèce antique où le tirage au sort joue un rôle important, mais dès qu'on analyse les choses de près, tempéré par d'autres forces qui sont souvent élitaires.
Bien sûr. Alors, l'appel au tirage au sort, le prestige du tirage au sort aujourd'hui et le renouveau de l'intérêt pour le tirage au sort peut convoquer des autorités très prestigieuses. Montesquieu, le tirage au sort relève de la démocratie, ressort de la démocratie, l'élection de l'aristocratie, mais bien sûr de Aristote et de la Grèce antique.
Je citais Aristote, pour lui, le tirage au sort, c'est la démocratie.
C'est la démocratie.
L'élection, c'est l'oligarchie.
C'est l'oligarchie, l'aristocratie. Propos que l'on retrouve chez Montesquieu et chez d'autres, voilà, qui relisent les mêmes discours.
Et qui ne sera pas éprouvé, je crois, par les électeurs de demain, devant leurs urnes.
Alors, il faut souhaiter que non. Enfin, espérons qu'avec l'élection, nous ne fabriquons pas des aristocraties pérennes et héréditaires. Alors, la position d'Aristote, c'est la démocratie athénienne. La démocratie, c'est l'assemblée. L'assemblée du peuple, les élections et le tirage au sort pour les charges, pour les magistratures. Donc il y a d'un côté l'assemblée, le peuple en assemblée, l'ecclésia, et de l'autre côté la boulée, les magistratures attribuées par tirage au sort, des centaines de charges, police, responsables des routes, et surtout les juges tirés au sort.
L'ecclésia qui rassemble tous les citoyens, environ 6000, 7000 dit-on à Athènes,
oui,
qui sont disponibles, et puis il y a la boulée, qui est une chambre qui est issue de la première et où le hasard et la désignation de ses membres est marquée par le hasard.
Est marquée par le hasard et la distribution des charges. Mais quand on regarde dans le détail, d'abord il ne s'agit pas d'instaurer le tirage au sort à la place des élections. Il y a aussi une reconnaissance de la place des élections chez Aristote, évidemment.
Pour les magistratures qui demandent une compétence spécifique.
Spécifique. Et puis, le tirage au sort se fait en grande part sur la liste de ceux ou les noms de ceux qui sont volontaires, qui souhaitent exercer des charges. Et donc là, ça exerce déjà un premier effet de sélection. Ça n'est pas une loterie totale.
Outre que les paysans qui étaient éloignés venaient moins facilement que le petit peuple urbain ou les riches de la ville à l'ecclésia.
Exactement. Donc on pourrait multiplier les exemples de restrictions, l'exclusion des femmes, l'exclusion des esclaves, l'exclusion des non-citoyens.
Les métèques.
Donc des métèques, l'exclusion de fait des paysans. Mais c'est un système qui assure d'une certaine façon, la rotation dans l'exercice des charges. Et ça, c'est un point essentiel qui fait écho à des débats d'aujourd'hui sur la limitation du nombre de mandats, le non-cumul des mandats, la réduction de la possibilité d'occuper des charges indéfiniment.
La reddition de comptes aussi.
La reddition de comptes. Donc derrière, les questions, c'est bien rotation des charges, redistribution, de manière à assurer aussi une résolution, un règlement des conflits propres à toute société.
Il y a donc une dialectique entre le tirage au sort et l'élection. Je vous lis Aristote, puisque nous l'avons évoqué. Quelles sont les caractéristiques communes à toutes les démocraties ? Il dit « choix de tous les magistrats parmi tous les citoyens, gouvernement de chacun par tous et de tous par chacun à tour de rôle, tirage au sort, nous y voilà, tirage au sort des magistratures, soit de toutes celles qui ne demandent ni expérience ni savoir. » Question de tempérer ce choix par la prise en compte des compétences. Impossibilité pour un même citoyen d'exercer en dehors des fonctions militaires deux fois la même magistrature, parce qu'on considère que être chef de guerre, ça demande une expérience spécifique, donc il faut conserver les chefs, ou seulement un petit nombre de fois et pour un petit nombre de magistratures. Courte durée des magistratures, peu de temps et non répétition, limite dans le temps du nombre de mandats. Fonctions judiciaires ouvertes à tous, tous jugeant de tout, ou des causes les plus nombreuses, les plus importantes et les plus décisives, par exemple la vérification des comptes, les affaires politiques, les contrats privés, souveraineté de l'Assemblée dans tous les domaines ou sur les affaires les plus importantes, versement d'une indemnité, au mieux, pour toutes les charges publiques ou au moins pour les principales. Donc quand on choisit des gens par le sort, il faut aussi les rétribuer, c'est comme pour le jury dans le cas des procès, il faut leur donner une indemnité qui compense, sans les enrichir, le temps qu'ils ne pourront pas consacrer à leurs affaires.
Bien sûr. Alors ça, c'est aussi un débat d'aujourd'hui sur l'indemnité parlementaire, mais surtout la rétribution des gens qui acceptent d'exercer des charges et des charges publiques, qui, dans bien des cas, pouvaient s'avérer soit très coûteuses en temps ou en relation, soit périlleuses. Et il faut donner les moyens de l'indépendance, sinon, c'est un peu la thèse de Max Weber sur vivre de la politique ou vivre pour la politique. Si on ne rétribue pas ceux qui exercent des charges publiques, alors la politique sera l'affaire des notables et des plus riches.
Ça, c'est ce que disait à un moment donné Talleyrand, je crois, au 19e siècle, il disait « si vous ne payez pas vos parlementaires, ils vous coûteront très cher ».
Oui, exactement. Et je trouve le texte d'Aristote que vous avez mentionné absolument passionnant, parce qu'on a une définition parfaite là, de la démocratie antique, très claire dans ses principes, qui fait écho, pour moi, me rappelle les propos prêtés à Périclès par Thucydide, disant « pour nous, un citoyen, nous ne considérons pas qu'un citoyen qui ne s'engage pas dans la politique est un citoyen paisible, c'est un citoyen inutile ». Donc être citoyen, c'est s'engager dans les affaires de la cité.
Oui, c'est s'engager, mais ce n'est pas forcément être désigné par le sort.
Alors, donc ça va très loin dans le tirage au sort, mais il faut rappeler, et on le voit dans le texte de Aristote, que si cette démocratie athénienne est une démocratie directe, à petite échelle, c'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers de citoyens qui vivent eux-mêmes directement les décisions, les conséquences des décisions qu'ils pourraient prendre dans l'Ecclésia. Ils déclarent la guerre, ils partiront faire la guerre eux-mêmes. Ce qui n'est pas du tout le même cas que dans des démocraties contemporaines où il y a des millions d'électeurs, des centaines de millions de citoyens et où la conséquence des décisions n'est pas tout à fait la même. Donc la question ensuite est de savoir si ces principes extrêmement ambitieux, extrêmement nobles de la démocratie résumés par Aristote sont applicables dans des régimes différents et dans des démocraties de beaucoup plus grande échelle qui sont nos États contemporains par exemple. Donc il y a un changement d'échelle considérable qui transforme la nature des problèmes et une division du travail social. Je peux voter la guerre en tant que député et ne pas la faire moi-même directement, ce qui n'était pas le cas pour les citoyens athéniens.
Déjà à Rome, les nombres sont plus grands et c'est peut-être pour cela que le tirage au sort, tout en subsistant, a moins d'importance qu'à Athènes. Et il est marqué en même temps par une coloration religieuse qui existait moins en Grèce.
Oui, il est marqué par une coloration religieuse. Il sert à déterminer l'ordre de vote, par exemple, de certains groupes, de l'ordre dans lesquels on les fait voter,
des choses qu'on retrouvera, les centuries.
Qu'on retrouvera, par exemple, dans des assemblées d'ancien régime au 15e, 16e, 17e siècle, pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui votent dans le même ordre et qu'on ait un effet d'imposition de l'avis de celui qui vote en premier.
Là, typiquement, c'est combiné avec des critères qui sont exogènes par rapport au tirage au sort. Des critères en particulier de fortune, il y a d'abord les centuries des plus riches, et lorsque la décision est prise majoritairement, on ne fait même pas voter les plus pauvres. Le hasard s'incline ici devant la hiérarchie sociale.
Exactement. À Rome, le lien tirage au sort et forme démocratique ou forme républicaine du gouvernement se distend. Mais ce qu'on peut en retenir, c'est peut-être la dimension religieuse et la question de l'aléa, la question du sort, parce qu'elle va jouer très fortement dans l'histoire du retour du sort avec le retour de la République en Europe à partir du XIIIe siècle, le retour de la forme républicaine dans les villes italiennes, et l'inquiétude que l'on peut avoir sur le sort et l'aléa d'un point de vue religieux, puisqu'il ne faut pas confondre sort et providence. Et du coup, le retour du sort dans les systèmes politiques civils, les villes italiennes ou les villes de la couronne d'Aragon, s'accompagne d'un refus et d'un congé donné aux pratiques de tirage au sort total dans l'univers ecclésiastique. On arrête d'envisager de tirer au sort les papes, les évêques, les cardinaux. Ce qui triomphe, c'est le principe de l'élection, pour refuser les candidats indignes, incompétents, incapables, et aussi parce que le sort, le hasard, n'appartient qu'à Dieu.
Voilà. Bien justement, on peut penser que Dieu, c'est lui qui les désigne par le truchement de ceux qui sont là.
Ou... Alors, il les désigne autrement. Il ne les désigne pas par le sort et par des jeux de hasard que l'Église condamne fermement. Condamne les jeux de hasard, condamne les jeux de dés, condamne les jeux de cartes, condamne les loteries très longuement. L'histoire du jeu le montre très bien.
Les protestants y insisteront particulièrement les autres.
Particulièrement, c'est englobé dans l'interprétation du deuxième commandement, de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain, et donc de ne pas jouer d'avocat. En revanche, oui, Dieu participe bien à la sélection des dirigeants ou à la sélection par le biais de la providence, où là, en fait, il ne s'agit pas de hasard. Dieu choisit déjà les bons gouvernants, les bons rois ou les bons magistrats locaux, à charge pour les hommes de savoir les reconnaître. Et l'élection a un double sens dans la langue d'Ancien Régime. C'est l'élection au sens d'élection céleste ou d'élection divine, et élection au sens de choix que font les hommes entre eux. Et l'élection des hommes, c'est être capable de reconnaître l'élection divine, l'élu de Dieu, rien d'autre. D'où ces rituels du vote que l'on connaît très bien, ou par exemple, les cantates de Bach pour l'élection des magistrats de Leipzig. Voilà, des Ratswahlkantaten de Bach. On célèbre un choix céleste, au fond.
On n'a pas de bac pour le tirage au sort, pour célébrer le tirage au sort.
Pas à ma connaissance.
Je vous parlais de la réapparition de l'idée chez un certain nombre d'auteurs du prix, de l'avantage du tirage au sort, qui s'inspire du passé. En voici un, notoire et remarquable, qui est Jacques Rancière, qui s'exprime de la sorte au micro de Laure Adler dans Hors-Champ sur France Culture le 26 avril 2016. C'est tout récent et nous verrons par là la vitalité de cette idée de tirage au sort.
Je suis pour autant qu'elle s'inscrit dans une dynamique. C'est-à-dire que bon, il y a des gens qui vous disent, bon, bien, il y a qu'à mettre le tirage au sort, tout ira bien. Mais je dirais, il n'y a aucune raison que des gens qui sont en place aujourd'hui le mettent en pratique. Ce qui est important, c'est de repenser.
N'importe qui d'entre nous peut administrer la cité.
Bah, apparemment, puisque de toute façon, n'importe qui d'entre nous est électeur. Donc, n'importe qui d'entre nous est censé.
Vous n'allez pas revenir sur les principes de l'élection universelle. Vous n'allez pas défendre l'élection censitaire.
Je ne vais pas défendre l'élection censitaire, mais je pense qu'on peut très bien défendre d'abord l'idée, disons, effectivement, de mandats très courts, non cumulables, non renouvelables, avec un contrôle populaire effectif sur les gens qu'on a mandatés.
Et alors, comment je pense
que très bien qu'on peut aussi très bien avoir une. Par exemple, on a deux chambres. Dont une sert en gros à recaser quand même un peu les politiciens à la retraite, quoi. Bon, on pourrait très bien transformer cette chambre de politiciens à la retraite en une chambre tirée au sort. Bon, si on tire au sort les gens qui vont décider la vie et la mort des individus, je pense on peut très bien tirer au sort une assemblée de 200 personnes, et on sait très bien que l'assemblée de 200 personnes tirée au sort est aussi raisonnable qu'une assemblée de 200 personnes, ou plus raisonnable probablement même qu'une assemblée de 200 personnes qu'on a choisie en disant oh là là, ceux-là, ils ont des capacités. Bon. En tout cas, le hasard doit retrouver son rôle, parce que, bon, malgré tout, le mérite quand même extraordinaire du hasard, c'est qu'il ne se laisse pas corrompre. Quoi. il ne se laisse pas corrompre et il ne prend pas d'habitude, le hasard. Quoi.
Le mérite du hasard vu par Jacques Rancière. Alors, Olivier Christin.
Bien, ce que vient de dire Jacques Rancière est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la théorie de l'égalité des intelligences. Nous sommes tous électeurs, donc nous pouvons tous être choisis ou élus. Il n'y a pas de raison anthropologique ou ontologique qui devrait exclure tel ou tel citoyen, puisque nous avons évoqué tout à l'heure le service militaire. Par exemple, la citoyenneté est égale pour tous, l'égalité de tous devant la loi et l'égalité des intelligences.
C'est Aristote, puisqu'il nous dit que la démocratie suppose, implique l'égalité.
L'égalité.
Une sorte de postulat.
Absolument. Et donc ça, c'est, je trouve, très clair dans la position de Rancière et dans d'autres textes que l'on connaît bien. La deuxième chose qui est très intéressante qu'il fait, c'est le parallèle avec les jurys d'assises. Si des citoyens peuvent tirer au sort, peuvent décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, il n'y a plus de peine de mort en France, peuvent décider de l'emprisonnement, de l'incarcération pour des crimes extrêmement graves, pourquoi ne peuvent-ils pas décider de la loi de finances ou de réformes scolaires? Troisième point que relève Rancière, c'est d'évoquer le contrôle populaire. Le contrôle populaire, et on peut se demander comment il fonctionne dans le cas d'assemblées tirées au sort. Ça, c'est un problème. Dans le cas des élections, il peut y avoir un contrôle sous forme de réélection ou non. Ou on pourrait imaginer aussi des dispositifs plus contraignants de scrutin à mi-mandat ou de compte rendu. Dans le cas d'assemblées tirées au sort, la question du contrôle populaire. Et il aboutit à un troisième point qui là est essentiel si on veut comprendre le retour du tirage au sort dans les cités de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne, c'est la lutte contre la corruption. Une assemblée tirée au sort, dit Rancière, sera moins sujette à la corruption. Et c'est vraiment le principe qui va jouer totalement dans le cas vénitien célèbre et en partie dans le cas florentin, peut-être moins célèbre et tout aussi intéressant.
Eh bien, puisqu'ils sont intéressants, nous allons nous y attarder un instant, Olivier Christin. Il y a la lutte contre la corruption, il y a aussi l'idée que c'est une méthode pour résoudre les conflits et pour éviter les déchirements intestins. Parlons d'abord de Venise.
Alors, le cas de Venise, c'est le modèle de la cité républicaine. Il faut, dans toute la théorie politique du Moyen-Âge, de l'époque moderne, on donne toujours, comme exemple de gouvernement républicain, la sérénissime, la longévité de ce régime, sa stabilité.
La désignation du doge.
La désignation du doge, avec des images frappantes de ce conseil de 1000 personnes amenés à se prononcer.
Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il y a des échelles successives où se mêlent le hasard et le choix oligarchique.
Alors, l'un des spécialistes de l'histoire du tirage au sort, Hubertus Burstein, a écrit un livre sur l'histoire du tirage au sort en allemand, sur l'histoire du tirage au sort en Europe, raconte les étapes de l'élection du doge de Venise. Donc, il y a des parties d'élection, il y a des parties de négociation, il y a des parties de... On peut biffer les noms sur des listes, des pratiques électives qu'on retrouve aujourd'hui, de noms biffés.
On fait appel aussi à la main innocente de petits-enfants qu'on va chercher dans la rue. Les enfants, dans leur liberté, sont un instrument souvent du hasard. On le voit dans toute la description que nous donne par exemple Yves Saint-Omer de ce tirage au sort un peu partout, et notamment à Venise, dans un excellent livre dont je donnerai la référence tout à l'heure.
Absolument, les enfants qu'on utilise dans les loteries ou dans les tirages au sort pour sortir les boules, parce qu'ils représentent l'innocence au fond. Ils ne sont pas pris dans des coteries, dans des cabales, dans des clientèles, ils sont innocents, ils ne sont pas citoyens encore, ils ne sont pas partie prenante et donc on les utilise. Et du coup, à Venise, il y a un moment de tirage au sort. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que la procédure d'élection et de choix du doge, ensuite il y a des magistratures qui vont être attribuées par tirage au sort, mais dans le cas vénitien, ce qui est intéressant, c'est le mélange de sélection des élites entre elles et de tirage au sort pour lutter contre les phénomènes de clientèle et contre les phénomènes d'accaparement.
Cooptation, la cooptation va avec le tirage au sort.
Voilà, cooptation et tirage au sort sont utilisés ensemble, mélangés, de manière à avoir un régime stable et à assurer une rotation du pouvoir à l'intérieur de clans nobiliaires qui se partagent le pouvoir plutôt que de s'affronter. Donc c'est vraiment un moyen de résoudre les conflits, c'est vrai. C'est un moyen, dans la pensée politique aussi du Moyen-Âge et de l'époque moderne, d'éviter qu'un régime de type aristocratique dégénère en régime oligarchique dans lequel un clan seulement monopoliserait le pouvoir. C'est les catégories aristotéliciennes, la monarchie qui dégénère en tyrannie, la démocratie qui dégénère en anarchie, par exemple, ou timocratie qui dégénère en démocratie. Et l'aristocratie dégénère en oligarchie, quand un clan seulement s'empare du pouvoir et gère le pouvoir pour lui seul. Bien, comment éviter ça? C'est le tirage au sort. Le tirage au sort déjoue les cabales, déjoue est censé déjouer les cabales, déjouer les clientèles, éviter les calculs et vient limiter les effets de la cooptation de l'entre-soi nobiliaire.
Le limiter, mais nullement l'effacer, car c'est à l'intérieur de groupes que le sort va fonctionner, seulement à l'intérieur de groupes privilégiés.
Ah, absolument.
C'est une affaire très très compliquée.
À Venise, c'est un groupe de 4000 personnes qui va être amené à exercer à peu près 1 000 000 de charges. Alors, il y a rotation dans l'exercice des charges, mais on voit bien que c'est un groupe 4000 personnes sur environ 200 000 habitants avant la Grande Peste. Donc, c'est un petit groupe, c'est une république aristocratique qui a comme, au fond, comme modèle théorique, un peu l'idée de constitution mixte. Il y a le doge qui représente l'élément monarchique, il y a les magistrats qui représentent, ou un sénat plus limité, qui représente l'élément aristocratique, et puis les citoyens du Grand Conseil. Mais c'est de fait une république oligarchique assez fermée.
Et Florence?
Alors c'est assez différent à Florence. D'abord parce que Florence se construit un peu politiquement contre la menace milanaise. Donc toute une idéologie républicaine se construit un peu autour de chanceliers comme Salutati, Bruni, plus tard Machiavel, se construit une idéologie républicaine florentine de l'humanisme civique qui fait de l'engagement des citoyens dans la cité une des conditions de la liberté, donc un républicanisme très particulier qui est contre les menaces milanaises et prend comme repoussoir d'une certaine façon Venise et son régime oligarchique. Et donc du coup à Florence, on va avoir un système de tirage au sort, la tratta, qui va être imposé en grande partie dans des luttes politiques de la fin du XIIIe et puis surtout XIVe, XVe siècle, imposé jusqu'au retour des Médicis, permet là l'accès d'un beaucoup plus grand nombre de citoyens à des charges, aussi 800, 700, 800 charges.
Comment est-ce que ça se passe concrètement ?
Alors concrètement, on retrouve le mobilier hein, qui a servi dans des musées, au musée Correr à Venise, on peut trouver des urnes, oui et non, pour les boules noires et blanches. Alors on peut voter avec des fèves, on peut voter avec des plaques sur lesquelles les gens mettent les noms.
À Athènes, ça s'appelle le clérotérion, une machine à tirer au sort.
Voilà, on peut avoir aussi des boules, où on va mettre les boules, oui ou non, et les gens vont, ou alors tirer au sort dans un sac, et lorsqu'ils reçoivent la boule noire, c'est qu'ils sont exclus, d'où l'expression qui est restée de blackbouler quelqu'un, qui vient de là, d'avoir la boule noire qui exclut quelqu'un. Dans le cas florentin, en gros, il y a des gens se portent candidats, il y a des candidats qui sont retenus par les quartiers, jugés dignes d'exercer les charges. Les noms sont déposés à l'avant, mis dans des sortes de bourses ou de sacs, puis tirer au sort. Et c'est ce moment-là où intervient le tirage au sort. Donc il y a une première étape de recherche des candidats, déclaration des candidats. Les noms sont déposés à l'avance. Et au fur et à mesure des besoins, on va sélectionner les noms dans une bourse, donc à l'aveugle. Mais ensuite, on soumet encore les noms qui ont été tirés à un examen pour savoir si les noms tirés au sort ne sont pas des noms de personnes indignes ou incapables d'exercer les charges.
La liste des motifs pour ne pas les agréer est intéressante. Il faut qu'ils soient à jour de leurs impôts. Il faut qu'ils n'aient pas exercé une charge semblable récemment. Il faut qu'ils n'aient pas eu de condamnation pénale. C'est assez actuel.
Alors c'est ça qui est formidable dans ces républiques urbaines du Moyen-Âge en Italie, encore au XVIe siècle par exemple en Suisse ou en Allemagne, des villes comme Nuremberg, ou même si il y a des villes patriciennes, mais Cologne, ou encore dans certains cas français au XVIe siècle encore. Dans ces républiques urbaines, on voit des règlements électoraux qui utilisent le sort, dans certains cas, dans d'autres un peu moins, mais toujours avec le but d'éviter des clientèles familiales. Par exemple, interdiction que deux frères siègent dans le même conseil municipal, ou des époux, par exemple. Donc la question se pose pas pour les femmes dans les sociétés d'ancien régime.
Les enfants, peut-être.
Mais les enfants, père et enfant, impossible, ou deux frères ou des cousins, sont exclus. Ne pas avoir exercé la même charge auparavant, ne pas avoir été condamné à des peines infamantes. Donc on voit le souci d'assurer une représentation des intérêts de la population et une représentation digne, légitime, et d'éviter les clientèles, le clientélisme, et d'éviter la corruption.
Nous pourrions traiter également des Cortés de Castille, qui ont connu le même principe du tirage au sort, mais je voudrais que nous en venions maintenant à la période des Lumières, au XVIIIe siècle, où en particulier, vous le disiez tout à l'heure, aux États-Unis, se développe toute une pensée autour du tirage au sort. Je pense, par exemple, à Thomas Paine, qui est venu ensuite en France au moment de la Convention, ou à William Penn, oui. Le fondateur de la Pennsylvanie.
Oui, alors absolument, il y a un renouveau de la question du sort au XVIIIe siècle autour de deux enjeux, au fond. Le premier, c'est la question des révolutions, de l'invention du régime représentatif et des révolutions américaines et françaises, et de la question de savoir comment organiser une représentation moderne, une représentation juste, une représentation libre. Vous avez évoqué en entrée la question de la liberté aussi, politique, d'un pouvoir de tous sur tous. Et les discussions portent rapidement sur le choix de l'élection comme moyen de choisir les députés ou du tirage au sort comme moyen de les choisir. Et ce qui va être retenu, ça va être quand même, malgré certains textes très favorables au tirage au sort, par exemple on pourrait évoquer Rousseau, ce qui va l'emporter, c'est le principe de l'élection. Mais en même temps, ce qui va progresser, et là aux États-Unis, d'abord à partir d'une matrice anglaise et aux États-Unis, c'est la question du tirage au sort des jurys et des jurys des tribunaux. Et notamment aux États-Unis, avec cette tradition des jurys qui va s'imposer durablement à partir du 18e et très très fortement au 19e et 20e.
C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de solution de continuité entre la réflexion sur le tirage au sort en politique et le tirage au sort pour désigner des jurys. Et puisque vous évoquez cela, je vous en remercie. Cette archive va éclairer votre propos. C'est un extrait d'une conférence de maître René Fleuriot, un des grands avocats très fameux dans les prétoires sous la 4e République. C'est une conférence qu'il a prononcée le 21 décembre 1953. Écoutez ce qu'il nous dit.
Un dîner agréable entre amis. Au dessert, un convive évoque immanquablement le dernier crime dont tout le monde parle et dont les colonnes de presse sont pleines. Et chacun donne immédiatement son avis sur le châtiment que mérite le meurtrier. Et le premier convive de dire « Moi, je le condamnerai à mort ». Le second répond « Non, tout de même, la mort c'est beaucoup, mais enfin, 15 ans de travaux forcés ». Quant au troisième, il déclare « Mais vous n'y êtes ni l'un ni l'autre ». La mort, les travaux forcés, vous n'avez pas lu les journaux. Vous n'avez pas aperçu les éléments qui l'ont poussé à commettre son forfait, moi je la quitterai. Ou en tout cas, il aura le sursis. Avez-vous jamais réfléchi que les jurés sont tirés au sort parmi des braves gens comme ceux de notre dîner? Et avez-vous pensé quelle pouvait être la chance de l'accusé qui voit sortir de l'urne le nom de celui qui voulait l'acquitter? Voyez-vous, un procès d'assises, ça commence exactement comme une loterie par un tirage au sort. Il y a 21 personnes qu'on a prises tout à fait au hasard et qui sont assemblées devant le président. Dans une urne, leurs 21 noms. Et on va choisir parmi ces 21 personnes les 7 qui constitueront ce qu'on appelle le jury de jugement et qui vont statuer sur la vie ou en tout cas sur la liberté de l'accusé. Parmi ces 21 personnes, il en est qui sont féroce, impitoyable, ou en tout cas très sévère, et d'autres qui sont tendres, pitoyables, favorables aux accusés, quels qu'ils soient. Suivant que le tirage au sort va mettre dans ces 7 jurés les impitoyables ou les tendres, le sort de l'accusé va être modifié de 100%. Vous m'accorderez que c'est assez curieux pour une entreprise de justice.
Pour une entreprise de justice et pour une entreprise politique éventuellement. Le hasard, du côté de ceux qui le critiquent, apporte des inégalités fortes. Évidemment, c'est peut-être plus vrai dans un petit groupe que constitue un ensemble de jurés, plutôt que dans un ensemble qui peut être représentatif de la population tout entière.
Oui, tout à fait. Le discours est passionnant parce qu'il insiste sur justement les aléas du sort qui peut amener dans une compagnie étroite, un groupe étroit, des personnes avec des opinions absolument opposées, absolument changées. Mais c'est précisément ça qui est intéressant dans le tirage au sort politique. C'est-à-dire l'idée que pourraient être amenées à se prononcer sur des affaires politiques des personnes dont l'opinion ne trouvent pas dans les partis traditionnels ou ne trouvent pas dans les élites politiques classiques à s'exprimer. Des gens dont l'expérience du travail ou l'expérience au quotidien est peu représentée ou pas représentée dans les discussions politiques au Parlement. Par exemple, des agriculteurs qui sont presque absents aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc c'est justement la diversité des opinions qui devient intéressante parce que derrière, on a l'idée d'échantillons représentatifs. Donc c'est ça la nouveauté radicale de notre temps et des projets actuels de rétablissement du sort dans certains cas ou dans, pour certaines occasions ou pour certaines chambres, comme l'évoquait tout à l'heure Rancière, faut-il remplacer le Sénat par une assemblée tirée au sort ou faut-il remplacer le Conseil économique et social et environnemental par une chambre tirée au sort? Eh bien, ce qui est recherché, c'est justement la diversité sociologique, la diversité d'âge, la diversité des conditions, la diversité religieuse, des gens issus de l'immigration ou pas, pour transformer la représentation nationale et la rendre plus représentative, avec l'idée de représentativité sociologique, représentativité statistique, puisque nous avons aujourd'hui les instruments de la représentativité, l'idée de sondage ou d'échantillon représentatif, qui est évidemment totalement absent des théories du sort et de l'usage du sort à Athènes, mais même au XVIIIe siècle, où ce qu'on peut utiliser comme outil, c'est le calcul des probabilités. Voilà. Et donc, pas du tout la question de la représentation sociale ou sociologique qui n'intéresse pas les penseurs de la République, pas davantage Penn que Harrington, que Rousseau. La question est de savoir qu'est-ce que c'est que le peuple souverain, comment s'exerce la souveraineté du peuple, comment s'organisent les rapports entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif, à travers ou non l'élection ou le sort, mais pas tellement la question de la représentation des intérêts qui vient plus tard et différemment à travers d'autres canaux.
Voilà. Montesquieu, en effet, et Rousseau sont tous les deux persuadés que le tirage au sort est adéquat au fonctionnement d'une démocratie.
Absolument, même si leur position à l'égard de la démocratie n'est pas tout à fait comparable. La position de Rousseau est beaucoup plus favorable à des régimes de type démocratique ou républicain.
Rousseau nous dit, dans toute véritable démocratie, la magistrature n'est pas un avantage, mais une charge onéreuse qu'on ne peut imposer à un particulier plutôt qu'à un autre, d'où la logique du tirage au sort. La loi seule peut imposer cette charge à celui sur qui le sort tombera, car alors la condition étant égale pour tous et le choix ne dépendant d'aucune volonté humaine, il n'y a point d'application particulière qui altère l'universalité de la loi. Il n'empêche que ces délibérations, notamment celles du jury, laissent peut-être intacte la question de la capacité plus ou moins grande d'influencer les autres membres du groupe. On pense forcément au très beau film de Sidney Lumet, 12 hommes en colère, où on voit Henri Fonda, d'abord solitaire dans le groupe, faire changer entièrement et progressivement le point de vue du jury.
Oui, absolument. Et je crois que c'est ça le point vraiment de bascule qu'évoque très bien Yves Saint-Omer hein, dans son histoire de l'expérimentation démocratique, qui est un livre consacré au tirage au sort.
Oui, je l'évoquais tout à l'heure, remarquable ouvrage.
Qui vraiment souligne le fait que au XVIIIe siècle, le sort disparaît des projets politiques et de l'idée de représentation politique où s'étiole. Les propositions de William Penn ne sont pas suivies. Harrington ne lui concède pas un rôle considérable. Thomas Paine non plus. Les projets qui sont évoqués au moment de la Révolution française sont très rapidement écartés au profit de l'élection. Alors que justement, c'est le moment où, au contraire, peut-être aussi contre le fonctionnement de la justice d'Ancien Régime, le jury citoyen, le jury de citoyens s'impose comme un moyen légitime, licite, juste de rendre la justice.
Pour les affaires pénales, mais pas pour les affaires civiles.
Pour les affaires pénales. Et dans la Constitution des États-Unis, le jury est même constitutionnalisé, rentre dans la Constitution, le 6e amendement. Donc un peu un mystère démocratique d'une certaine façon, que l'on peut relier à l'histoire politique européenne à ce moment-là. C'est notamment l'idée des capacités, l'idée des gens qui ont les capacités financières, mais aussi les capacités sociales, sociologiques, les capacités intellectuelles ou culturelles de participer à la vie de la cité. Et donc le refus du sort comme un moyen de contribuer à des régimes qui n'accordent pas toute l'égalité pleine à tous les citoyens.
Encore qu'on peut combiner là encore les deux principes. Certains théoriciens défendent au XIXe siècle l'idée d'un tirage au sort à l'intérieur des classes censitaires, des plus riches.
Absolument, on peut combiner. Et c'est ça, je trouve intéressant dans le retour du tirage au sort, du modèle du tirage au sort comme renouveau démocratique aujourd'hui, c'est que, à l'exception de quelques auteurs particuliers et au fond marginaux, personne ne propose véritablement de remplacer toutes les élections par du tirage au sort. Mais ce qu'on propose, c'est de combiner élections et tirage au sort, ou d'utiliser le tirage au sort pour des circonstances particulières ou pour des assemblées particulières qui pourraient jouer le rôle de lieu de réflexion et de projection sur des questions constitutionnelles ou des questions environnementales ou des questions comme ça a été le cas en Irlande et en Islande.
On prépare les décisions à proprement parler politique par une réflexion collective.
C'est le modèle de James Fishkin, mis au point il y a une vingtaine d'années par cet universitaire californien qui organise des sondages d'assez grande ampleur avec plusieurs centaines de personnes qui sont consultées et que l'on fait délibérer et travailler ensemble sur des durées assez longues sur des questions complexes et qui font des propositions qui servent ensuite de base à des décisions politiques. Donc c'est vraiment l'idée de consultation citoyenne, d'échantillons représentatifs de citoyens amenés à débattre, à discuter, à délibérer ensemble. Et on peut parfaitement appliquer ce modèle à des décisions complexes, par exemple sur des enjeux d'aménagement du territoire, ou des enjeux d'aménagement local, ou des enjeux environnementaux, par exemple, voilà, dans lesquels l'action publique est souvent entravée aujourd'hui par la complexité des intérêts dissemblables qui jouent, on voit très bien dans le cas de Notre-Dame-des-Landes ou dans le cas de Sivens, où la complexité des intérêts, des groupes, des conflits rend légitimes les pratiques participatives et délibératives. Donc, eh bien, ce que je trouve intéressant dans ces retours de l'idée de jury citoyen tiré au sort ou de sondage participatif, c'est l'idée qu'il ne vont pas se substituer dans tous les cas et tous les cas de figure. Il n'est pas question de tirer le président de la République au sort, évidemment. Mais il est question, par exemple...
La bonne heure.
Voilà. Mais il est question, par exemple, de faire entrer dans des conseils, certains mouvements politiques ont suggéré qu'on pouvait faire entrer dans des conseils municipaux 10%, 15% de membres des conseils municipaux tirés au sort sur les listes électorales, où on pourrait aussi imaginer des assemblées locales tirées au sort sur certains problèmes ou des sondages citoyens sur certains projets d'aménagement autoroutier ou ferroviaire qui ont des impacts très forts sur les populations.
Tout au long de notre conversation, Olivier et Christin, nous avons bien perçu qu'il y a une grande différence entre choisir dans un ensemble vaste de citoyens quelques-uns par hasard et d'autre part veiller à la représentativité de ceux qu'on choisit, ce qui suppose des sous-groupes pour y aller trouver des élus par le sort. Et à cet égard, le dialogue entre monde de la justice et monde politique reste toujours très, très, très vivant. On le voit bien dans ce propos d'Alain Perfit, oui, qui était garde des Sceaux en 1977, et qui explique dans Interactualité, le 28 septembre, la réforme qu'il a introduite dans la constitution des jurys pour le rendre précisément plus représentatif. Et cette réforme est toujours en vigueur.
Les jurys étaient désignés dans des conditions qui n'étaient pas très satisfaisantes parce qu'ils ne représentaient plus une image exacte du public. Eh bien, le système nouveau que nous avons adopté ce matin est fondé sur le tirage au sort. Un premier tirage sera effectué par le maire à partir des listes électorales. Et puis après regroupement de ces tirages effectués par les maires, après contrôle des incompatibilités ou des inaptitudes par une commission départementale, on procédera à un deuxième tirage au sort. Et l'on peut penser ainsi qu'on aboutira à des listes de jurés, à des listes annuelles de jurés qui seront véritablement représentatives de la population. Et notamment, en ce qui concerne le nombre des hommes et des femmes, puisque jusqu'à maintenant, il y avait une majorité écrasante d'hommes et une toute petite minorité de femmes dans les listes de jurés, alors que désormais, il y aura un nombre égal d'hommes et de femmes.
Donc, restitution d'une représentativité, système de chaises musicales, au fond, avec diminution progressive du nombre de personnes choisies.
Totalement. On voit là bien le lien entre institution judiciaire et représentation du citoyen capable d'agir dans un jury et représentation du citoyen comme participant au gouvernement ou à la chose publique.
Avec à la fin l'élimination de ceux qui ne sont pas adéquats.
Exactement. Avec le fait que les femmes apparaissent dans les jurys d'assises à partir de 1944, au moment où elles reçoivent le droit de vote. Et là, il s'agit de rendre paritaires les jurys et d'éliminer ceux qui ne sont pas adéquats. Donc, toute élection, tout tirage au sort est toujours à un moment donné quand même aussi un jugement sur les personnes. Aussi, hein. On évalue la qualité des personnes. Soit ce sont les électeurs qui le font, soit ce sont les commissions qui, après tirage au sort, évaluent la qualité de ceux qui ont été tirés au sort. Il y a toujours à un moment quand même un jugement. L'élection ou le tirage au sort est jugement.
Donc on vient tempérer les fantaisies de la fortune.
En partie.
Avec un grand F.
En partie. Et ce qui est intéressant là, c'est que ce discours d'Alain Perfit souligne la force et la faiblesse du tirage au sort. Le tirage au sort comme miroir, miroir de la société. Il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Il faut qu'il y ait autant de jeunes qu'il y en a dans la société. Il faut qu'il y ait autant... Donc le tirage au sort nous permettrait d'avoir une représentation représentative, un miroir, une théorie de la représentation politique très différente de celle qui a prévalu depuis le milieu du XVIIIe siècle dans les régimes représentatifs. C'est sa force. Il faut des assemblées qui nous ressemblent. C'est aussi sa faiblesse. C'est aussi sa faiblesse. Parce que derrière... surgissent un certain nombre de problèmes. C'est, premier problème, est-ce qu'on va prendre en compte les variables idéologiques ou est-ce qu'on congédie l'idéologie? On ne prend en compte que les appartenances sociales, les diplômes, l'âge, le lieu de résidence, il faut qu'il y ait des ruraux, il faut qu'il y ait des urbains.
Pas les cultures familiales, et, par exemple.
Pas les cultures familiales. Jusqu'où on va pousser la représentativité de l'échantillon? Est-ce qu'il s'agit de congédier les idéologies et de congédier complètement les partis et d'avoir des assemblées dans lesquelles les appartenances partisanes ne compteront plus, c'est un problème. Et les partis politiques sont dans la Constitution de 1958.
À bon escient.
Et ils contribuent à l'expression de la volonté politique. Est-ce qu'on ne va pas assez loin ou trop loin sur ce terrain-là en oubliant que les partis sont aussi un lieu de formation? Pas simplement un lieu de tractation, de négociation ou de corruption, comme on le lit par endroit. C'est un lieu de formation des élites.
Mais en même temps, Tocqueville disait que les jurés étaient un lieu d'éducation à la citoyenneté.
Alors Tocqueville le dit sur les jurés, mais les jurés concernent beaucoup plus de monde aux États-Unis qu'en France. Le nombre de citoyens qui vont être choisis dans des jurés aux États-Unis est beaucoup plus important qu'en France, où c'est quelques milliers de citoyens. Alors que dans le militantisme a servi dans les parties de la fin du 19e et du 20e siècle, aussi d'école de la citoyenneté, où les gens se formaient, apprenaient la loi, apprenaient à... C'était aussi un lieu de contrôle. Quel sera le contrôle et comment rendront compte les gens qui ont été dans des assemblées, qui ont été tirés au sort pour nous représenter, pour décider en notre nom? Quel contrôle aurons-nous sur eux? Question essentielle. Et puis troisième problème qu'on entend bien aussi dans ces discours, pour moi, c'est la question du statut de l'opposition. Je comprends bien, enfin j'espère, comprendre ce que c'est qu'une opposition dans une assemblée élue. Je vois à peu près ce que c'est que la majorité, ce que c'est que l'opposition, ce que c'est que le statut de l'opposition, ce que l'opposition peut ou ne peut pas faire. Mais quel est le statut de l'opposition dans une assemblée dite représentative parce qu'elle nous ressemble? Peut-on s'opposer aux décisions d'une telle assemblée ou à ces propositions? Là aussi, il y a une ambiguïté, et c'est vrai que, de ce point de vue-là, le titre du livre de Yves Saint-Omer est très bien, c'est une expérimentation démocratique qui se joue peut-être autour du tirage au sort, et certainement pas une solution clé en main, toute faite, que nous pourrions appliquer partout et tout le temps.
Je crois que sur ce relativisme, nous pouvons, Olivier Christin, clore notre conversation. Je vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro pour parler de cette grande question du tirage au sort que nous avons vu ressurgir depuis l'Antiquité à différents moments et jusqu'à présent. J'ai cité, je rappelle, votre ouvrage majeur, Olivier Christin, Vox Populi, une histoire du vote avant le suffrage universel, paru au Seuil en 2014, où vous vous interrogez sur les origines ecclésiastiques principalement du principe du suffrage. Vous avez également publié un dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines chez Métellier, deux volumes, 2010 et 2016. C'est un dictionnaire vraiment précieux. Je veux à nouveau rendre hommage à Yves Saint-Omer, dont le livre nous a été très utile, « Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours », paru à la Découverte en 2011. Ce même auteur a donné des contributions précieuses au site La vie des idées que dirigent Pierre-Rosan Vallon et Yvan Jablonka, la petite histoire du tirage au sort en politique d'Athènes à la Révolution française. Vous pourrez, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références, vous le savez, des documents sonores que nous avons utilisés, notamment celle de la chanson d'Henri Tachan. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la Méditerranée. Récemment, nous évoquions la Manche comme à la fois lieu de rupture et de communication entre le Royaume-Uni et la France. Cette fois-ci, c'est la Méditerranée qui sera notre thème, avec comme interrogation secourable ou mortelle. Et mon invité sera un excellent connaisseur de notre mer Méditerranée, Guillaume Calafat. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Guillaume Cotte et Nathalie Lempereur, réalisée comme chaque semaine par Anne Kobilac, avec à la prise de son Olivier Arnay, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Brulant. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.